Lights, camera, action!
Aujourd'hui à l'émission, Dazed and Confused, Uncut Gems et Wake and Fright. Bienvenue à On Jase de Film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, on jase de films, la formule est simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, donc ensemble on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly, la cinéphilie de la personne que je reçois, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir sur le show un passionné de cinéma, un critique de films, un podcasteur. Tu m'as également donné ton futon, donc je t'en remercie encore. C'est Alex Rose. Salut Alex.
Salut Guy, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Oui.
Good. T'écris pour Cult Montreal, tu fais des critiques de films pour eux.
Oui, exact.
T'es là?
Depuis le début, depuis 2014, okay. J'étais brièvement au Mirror avant, parce que Cult Montreal, pour ceux qui ne savent pas, c'est né des cendres du Mirror, qui était l'équivalent anglophone, mettons, du ICI. Mm-hmm. Puis, une de mes amies, Roxane Hudon, travaillait, elle, pour le Mirror, puis elle a déménagé en Écosse. Puis, fait qu'elle m'a plugué pour la remplacer. Puis, au début, ce que je faisais, c'était ce qu'on appelait les blurbs, ce qui était vraiment juste des reviews de comme deux lignes qui accompagnaient les horaires du film, pour les films qui ne valaient pas la peine d'avoir une page, un quart de page. J'ai fait ça pendant quelques mois. Le premier film que j'étais censé aller voir pour avoir un long review, c'était Spider-Man, le premier avec Andrew Garfield.
Ah oui, OK, mon Dieu. Oui.
Et le jour même où j'étais censé y aller, on a tiré la plug sur le Mirror. Et donc, c'est jamais arrivé. J'ai jamais été publié, là... officiellement dans le Mirror, mais après ça, c'est ça, Cult est né des cendres, puis au début, j'étais encore juste un pigiste, là. Je faisais essentiellement la même affaire, la job sale d'aller voir les films que personne ne voulait aller voir.
Ouais.
Puis là, éventuellement, avec le temps, ben, je suis devenu pupitreur, là, rédacteur en chef de la section écran, parce que là, on s'entend que depuis un certain moment, le cinéma en tant que tel... Et sur pause, donc oui. Je peux pas être le film editor nécessairement parce que il n'y a pas de film.
Ouais, c'est une job qui t'a amené à parler avec plein de célébrités, de cinéastes, d'acteurs,
oui, oui.
De plein de gens qui travaillent dans cette industrie-là. Avec qui tu as pu parler, puis ça t'a le plus impressionné, que tu as fait « Mon Dieu, là, je me pince un peu de parler avec cette personne-là. »
C'était toute la même année, je crois. Non, c'était tout au TIFF, dans le fond. Puis c'était... Mais les top trois, je te dirais, c'est Michael Haneke,
ouais.
Paul Verhoeven et Jim Jarmusch. Comme un des trois, ça serait déjà quand même pas mal, je trouve.
Ouais, il me semble que c'est comme trois personnes de qui tu veux apprendre dans la vie.
C'est ça. Puis tu sais, Jarmusch, c'était un round table, fait qu'on était plusieurs journalistes. Mais tu sais, Paul Verhoeven, il y avait juste moi puis Paul Verhoeven sur un divan, puis son interprète.
C'était-tu avec son comeback avec elle? Ou...
Ouais, c'était pour elle, c'est ça. Okay, c'est l'année avant, parce que Jim Jarmusch, c'était pour Patterson, puis Haneke, c'était pour Happy End.
OK, ouais, ouais.
Puis Haneke aussi, il y a un interprète, même si c'est des gens qui parlent anglais, je pense que c'est plus facile pour la rapidité là, du travail. Mais aussi intéressant, fait intéressant, le lendemain, j'ai croisé Haneke à l'hôtel, le même hôtel où je l'avais interviewé, puis il m'a fait salut. Fait qu'il s'est rappelé de moi 24 heures plus tard, puis j'étais comme « Oh! »
C'est bien cool! je suis jaloux. Je ne cacherai pas, là. Haneke, c'est un cinéaste que je porte très fièrement dans mon cœur.
Ouais, puis tu sais, puis je te dirais que la chose que tu remarques quand tu rencontres ces gens-là, tu sais, puis on s'entend que là, c'est pas une rencontre. C'est dans le cadre du travail, ils sont la switch à travail, mais c'est que c'est souvent du monde qui sont super normal.
Ouais,
c'est comme Haneke, tu penserais qu'il serait très comme. Je sais pas, là, pas misérabiliste, mais tu sais, il fait pas des films de personnes qui est heureuse, mais il a l'air ben heureux de même. Tu sais, il semble pas nécessairement.
Ouais.
Puis tu sais, au même niveau, il y a des. Mettons, la chose qui me fait plus peur, le type de personne qui me fait plus peur à interviewer, c'est des actrices françaises.
Okay.
J'ai interviewé deux fois Isabelle Huppert, puis les deux fois, j'étais comme, je pensais que j'allais mourir. Parce que, tu sais, comme t'as vraiment peur que ça se passe pas comme elle, ça y tente. Puis, tu sais, de tout le monde sur la Terre qui pourrait m'envoyer chier, la personne que je veux le moins qui m'envoie chier, c'est Isabelle Huppert. Parce que, mm-hmm. j'ai l'impression que ça resterait avec moi pour toujours.
Ouais.
Fait que, je m'en suis bien sorti les deux fois, fait que ça, je suis quand même heureux. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que ça, c'est une des parties les plus fun de la job. C'est une des parties de la job qui m'a plus ou moins été enlevée, tu sais, là, avec la pandémie. Parce que de temps en temps, je fais des entrevues sur Zoom, mais tu sais, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Non, non.
Tu peux pas dire que tu as rencontré quelqu'un si tu leur parles sur Zoom. Fait que c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même le fun. Ça donne un accès quand même aux gens. Puis je pense que c'est pas mal moins stressant sur les personnes qui doivent faire 250 entrevues. Là,
ouais, ouais.
Fait que c'est ça. Puis quand j'ai commencé à aller au TIFF, ne sachant pas vraiment de quoi ça allait avoir l'air, j'étais très relax. Puis je vais toujours m'en souvenir, j'ai fait une entrevue avec Brie Larson pour oui. Room. C'est l'année que Room a sorti. Puis là, on ne savait pas qu'elle allait gagner l'Oscar, évidemment.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, ils nous ont mis toutes des dudes barbus avec des bedaines puis des hoodies dans une chambre d'hôtel, tu sais. Puis elle est rentrée, puis elle était toute maquillée. Elle avait comme une robe, parce que, tu sais, ils ont rentré comme entre deux shoots pour la télé, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que je me suis dit, là, ça n'a pas d'allure. Genre, tu sais, moi, je me sens pas... Il faut que je step it up. Là. Je ne peux pas arriver là, en hoodie. Là, je suis en hoodie en ce moment. Mais
non, mais on n'a pas. Je ne suis pas Brie Larson, inquiète-toi pas.
À cause de ça, maintenant, je mets toujours un suit quand je vais faire des entrevues dans les festivals. Puis je te dirais que depuis que j'ai fait cette décision-là, les personnes sont en suit peut-être une fois sur 40.
Ah ouais.
La première année, tout le monde était tout en suit. Les actrices étaient maquillées, puis en robe, puis tout. Puis maintenant, c'est plus ça pantoute. On fait ce qu'on peut.
Ouais. T'as grandi au Saguenay?
Oui.
Ou au lac Saint-Jean? Je peux pas faire la différence.
Non, au Saguenay, à Arvida, qui est en fait maintenant fusionné pour devenir Jonquière, qui est maintenant fusionné pour devenir ville de Saguenay.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça.
C'est comment être un jeune cinéphile au Saguenay dans les années 90?
C'est de la marde. C'est pas... tu sais, comme moi... je sais que souvent, quand tu as des invités au show, ils parlent des films qu'ils regardaient dans leur jeunesse. Puis moi, je faisais pas vraiment ça. Pour être bien honnête, je pense que mes parents sont pas particulièrement cinéphiles. Ça arrivait qu'on louait des films. Mais une des choses, je pense, que je pensais à ça aujourd'hui, justement, c'est que mes deux parents parlent anglais. Puis dans les années 90, quand il y avait juste des VHS, ben, ils étaient juste en français. Fait que, je pense que au lieu de souffrir la version doublée que tu n'avais pas le choix, mes parents, ils faisaient autre chose que de regarder des films. T'sais. Fait qu'on ne regardait pas souvent des films en famille. Puis, tu sais, ça m'arrivait d'aller louer des films, tu sais, comme avec mes voisins, avec n'importe qui. Mais c'est pas avant vraiment comme... quand j'avais 12-13 ans, fait que, tu sais, fin des années 90, quand il a commencé à avoir des DVD et tout ça, que... tu sais, un certain monde s'est ouvert à moi parce que je pouvais regarder des films dans la langue originale, tu sais. Puis, tu sais, moi, ce que j'habitais à Arvida, j'étais loin du cinéma en plus. Fait que ça prenait un lift pour aller au cinéma. Sincèrement, tu peux même pas y aller en bus. Fait que, tu sais, j'allais en Bessic le Vidéo 2000 à Arvida, puis j'allais louer des films, tu sais, puis... puis là, un peu plus vieux, tu sais, tu dis, ben, à Kenagami, il y a un club vidéo, fait que je vais aller en Bessic là-bas, voir quels films qu'ils ont là-bas, qu'ils ont pas ici, tu sais. Puis, tu sais, je te dirais que cette frustration que j'avais a quand même été une des raisons pourquoi j'ai déménagé à Montréal pouvais. J'ai déménagé quand j'avais 17 ans. J'habitais avec ma grand-mère au début, là, tu sais, parce que j'étais comme, écoute, tant que j'ai pas des films doublés, c'est correct de vivre avec ta grand-mère. Non, mais tu sais, c'est... En tout cas, puis... mais c'est ça, c'est pas, tu sais, je découvrais pas grand-chose. T'sais. C'est les débuts, les balbutiements de l'Internet aussi, fait que, tu sais... tu lisais à propos de quelque chose qui avait l'air intéressant, mais tu sais, good luck, essayer de le trouver. Ouais,
ça existe juste. Avant de le voir.
C'est ça. Tu sais, fait que t'es un peu comme résolu à bon, j'achète qu'est-ce qu'il y a dans le bin à 5,99 au Walmart, tu sais. Puis de temps en temps, certains clubs vidéo avaient des VHS en anglais, fait que tu loues ça, tu lis les DVD qui sortent, puis tu sais, fait que tu te fais une cinéphilie, tu construis une cinéphilie étrange, je te dirais. Puis, tu sais, une des choses les plus importantes, comme ça l'est, je pense, pour beaucoup de gens de mon âge, c'était Mediafilm, les cotes ouais. dans l'horaire. Là. Puis, Télé-Québec, à l'époque, qui avait vraiment une section cinéma incroyable. Mm-hmm. Puis, tu sais, même souvent, plus souvent qu'autre chose, c'était les versions originales avec des sous-titres, même pour les films américains. Oui.
Ce qui fait que ça, aujourd'hui, malheureusement, mais bon.
Ouais, ben là, c'est sûr que là, l'accès a changé aussi. Fait que, mm-hmm. c'est sûr que si t'as rien, t'as pas accès à Criterion, t'as pas accès à quoi que ce soit, puis tu dois tomber là-dessus, c'est pas idéal, mais bon, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, moi, mettons, de 0 à 13 ans, ma cinéphilie, tu sais, ce qui est étrange parce que là, maintenant, tu sais, c'est ma job d'aller mm-hmm. au cinéma, c'était pas tant important dans ma vie que ça, tu sais. J'étais pas un genre de kid qui regarde Retour vers le futur ou E.T. là, à répétition. Mm-hmm. Je lisais énormément.
Ouais.
Puis, ça, c'était comme un peu... Ça m'arrivait... Je pense que pour certains films, j'ai lu comme le novelization boboche avant de voir le film. Là, genre Alien, puis des trucs okay. comme ça. Tu sais, fait que... Wow. je sais pas, là. Je sais pas à quel point... C'est... Je me souviens d'avoir lu le novelization de Star Wars... juste avant qu'il y ait que les films ressortent, là, ouais, le 20e anniversaire. Puis les novelizations n'ont comme rien à voir. Ils sont basés sur comme un vieux scénario. Là, uh-huh. Quand ça s'appelait Luke Starkiller, puis tout ça. Fait,
ouais,
puis là, tu vas voir le film, puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est... J'ai lu le livre, c'est pas comme le livre. Mais, plus, le livre n'est pas comme le film, c'est pas la même...
Non, c'est ça.
Puis,
mais, puis le déclic, c'est fait avec quel film, tu dirais?
Ben, c'est ça, je lisais énormément, puis je lisais, on recevait Le Soleil à la maison.
Mm-hmm.
Puis je lisais la section cinéma du Soleil, puis souvent j'étais comme. Tout ce que. C'était Normand Provencher, je pense que c'est encore Normand Provencher d'ailleurs au Soleil. Puis tout ce que Normand Provencher donne 5 étoiles, ça a l'air plate, puis tout ce que moi j'aime, il n'aime pas ça.
Ouais.
Fait que là, j'étais comme, il faut que j'essaye les affaires qui sont plates. Puis, je me souviens, j'étais allé louer. La même semaine, ça fait que c'est en 1999, The Sixth Sense, Being John Malkovich mm-hmm. et Three Kings.
OK.
Parce que les trois avaient eu comme au moins 4 étoiles, je pense, au Soleil ou en même. J'ai loué les trois. J'ai tout regardé ça la même fin de semaine, puis j'ai fait OK. Il se passe de quoi que c'est pas juste, tu sais, des jokes de graines, puis du monde qui sont tirés dans la tête ouais. dans les films. Ça peut être autre chose. Puis là, j'ai commencé à enregistrer des trucs à Télé-Québec. Je pense que le déclic, le grand film, puis on va y revenir, mais c'est pas un des films que j'ai choisi, mais c'est Taxi Driver.
Mm.
C'est un film que oui, probablement que tu devrais pas regarder quand t'as 13 ans, genre. Mm. Parce que peut-être, tu sais, ben, ça peut être bon.
C'est sûr.
Autant que ça
non,
peut
ouais,
donner
c'est vrai,
des...
C'est vrai.
Taxi Driver, puis tu sais, comme tout le monde, j'imagine Pulp Fiction. Là,
ouais.
Mais c'est ça, Taxi Driver, après ça, c'est tu débordes un peu une affaire, tu sais, puis là, j'étais rendu... C'est très cliché d'un homme blanc de mon âge, là, mais genre, tu sais, De Niro puis Pacino, tu sais, puis là, tu regardes ça, tu regardes Dog Day Afternoon, puis
ben
tu
oui.
regardes Raging Bull, puis ça fait que c'est parti de là, puis c'est encore des films pour lesquels j'ai une très grande estime,
mm-hmm.
mais tu sais, je pense que c'est pas avant de commencer à étudier en cinéma réellement
okay.
que ça t'ouvre vraiment le... Ça t'explose la tête. Je me souviens au cégep d'avoir vu Mon oncle d'Amérique.
Ah oui, avec Depardieu.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est René.
Non, c'est Alain René, ouais.
Ouais.
Puis ça, c'est vraiment, tu sais, avoir 17 ans puis penser que Tarantino, c'est le end-all, be-all de ce qui se passe au cinéma, puis voir ça, ça comme. C'était comme trop, on dirait.
Ouais.
C'était comme. J'étais comme pas capable de dealer avec ça. Fait que, tu sais, ça s'est fait quand même lentement, tu sais, puis à un certain point, moi, je suis un grand défenseur de prendre son temps et de pas nécessairement « Ah, tu trouves que Truffaut, c'est bon, ben écoute tous les bons Truffaut. »
On prend le temps de l'apprécier.
C'est ça. Tu t'en gardes. T'sais, j'ai fait ouais. ça énormément, de me garder des films. Il y a plein de films qui sont des grands films là, que j'ai toujours pas vus. Parce que aussi, tu veux pas, quand tu as 16-17 ans, tu découvres La Boîte noire. Mettons quand j'ai mm-hmm. déménagé ici. Puis là, tu peux t'as accès à tous ces grands films-là. Si tu t'enclenches schiste dans la même fin de semaine, il y a des chances que quand tu as 34 ans, tu t'en rappelles plus.
Ouais,
c'est comme
ça.
C'est futile. Ça ne servait ouais. à rien.
Tu vois, fait... trop de bonnes choses d'un coup, je trouve que ça enlève l'appréciation pour plus tard. Parce que tu as l'impression d'avoir tout vu un moment donné. Tu deviens trop cynique. Il faut garder les petits. T'sais, moi, je ne suis pas encore rentré dans le Kurosawa de ma vie. Là. J'ai jamais fait un film de Kurosawa, mais je me garde ça pour ma quarantaine, je pense.
Ouais. Ben, t'sais, puis il y a des choses aussi que tu regardes. T'sais, comme je me souviens d'avoir essayé d'écouter Sonate d'automne de Bergman.
Ouais.
T'sais, qui avait passé à Télé-Québec. Je me souviens d'avoir commencé à regarder, puis du haut de mes, je sais pas, là, 16 ans, dire. Je suis trop jeune pour ça. c'est pas genre tu vas voir des shit que tu devrais pas voir. Juste comme, tu sais, ça va te passer 10 000 pieds par-dessus la tête. Regarde Porky's 2 ou whatever, genre. Puis tu sais, ça, c'est à ton niveau pour le moment. Tu sais, puis tu peux regarder Porky's 2 puis dire, ben ça, c'est de la merde. Puis je pense que, tu sais, il y a aucun film qui est une perte de temps, selon moi.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, même si t'as pas aimé ça puis c'était de la merde sur toute la ligne, ben c'est... Ça t'a aidé à façonner ce que tu considères de la merde.
Définir tes standards. Voilà.
Exact.
On va rester un peu dans le monde de l'adolescence avec ton premier film qui est Dazed and Confused de 1993, réalisé par Richard Linklater. C'est, sauf erreur, son deuxième ou troisième film.
C'est son troisième, je crois. Le premier, c'est un truc très qui est sur le DVD d'ailleurs de. C'est des interviews qui s'appelle It's Impossible to Learn to Plow by Reading Books. Qui est, lui, il joue dedans, puis je pense que c'est lui qui set up son trépied puis qui fait des affaires. Là. Fait que, c'est très minimaliste.
Oh, ouais.
Donc, son deuxième grand film, puis son premier avec de l'argent.
Ouais, c'est ça. Ça met en vedette Matthew McConaughey, Jason London, Willie Wiggins, Joey Lauren Adams, qu'on a revu par après dans plus de films, mais aussi Mila Jovovich, Adam Goldberg et Ben Affleck qui ont eu les carrières qu'on connaît maintenant. Parle-moi de Dazed and Confused. C'est dur de dire l'histoire de ce film-là, mais ça raconte quoi? Ça présente quoi?
Ben c'est dans le fond, ça se passe c'est en 1976. C'est la dernière journée d'école du kid joué par Wiley Wiggins qui, parce que tu sais, aux États-Unis, fait que c'est séparé, tu sais, t'as le middle school puis le high school, fait que lui, il gradue envers l'école des grands, puis vu que c'est la dernière journée, ben il y a des gros parties, puis tu sais, tout le monde fait la fête, puis lui, il se fait un peu prendre sous l'aile des plus vieux, incluant, il me semble, sa sœur qui est comme... il me semble que c'est Parker Posey qui joue sa
sœur. Oui, c'est ça, Parker Posey.
Puis... fait qu'il se ramasse, c'est ça, avec des adultes, so to speak, dans une soirée. Ça se passe tout le long d'une soirée. Tu sais, ça commence quand l'école commence, puis ça finit le lendemain matin. Puis c'est un film, c'est ça, comme tu dis, avec pas vraiment d'histoire en tant que tel. C'est plus comme un hangout de personnages. Tu sais, c'est des personnages qui existent à l'intérieur d'un monde. Puis ce que j'aime vraiment de ce film-là, tu sais, quand j'étais ado, ça me mettait vraiment... en furie à quel point les films d'ado ne ressemblaient pas à ma vie à moi. T'sais. Puis, je trouvais ça tellement...
Tu ne te reconnaissais pas dans Roméo et Juliette de...
Non, c'est ça. T'sais, même American Pie ou des trucs comme ça, parce que t'es comme... T'sais, les ados dans les films d'ado américains, parce que t'es encore au secondaire quand t'as 18 ans.
Mm-hmm.
Fait que c'est tout le temps ça. Ils ont tout le temps... Ils ont un char, puis ils sont essentiellement des petits adultes. Puis moi, c'était pas ça, tu sais, surtout quand t'es au Saguenay, tu sais, à 15 ans, personne n'a de char, tu peux pas aller nulle part, tu peux pas, fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se saoule dans des champs, puis on brûle des choses, puis tout ça, puis, alors, tu sais, on va au lac Saint-Jean, à Saint-Jean, puis on fait un gros party sur la plage, tout ça. Puis, Dazed and Confused, je trouve que c'était ce qui, même si c'était essentiellement, tu sais, de la génération de mes parents, ce que ça démontrait, tu sais, c'est, ma mère a fini le secondaire en 1976, c'était beaucoup plus près de ma réalité à moi, tu sais. On s'emmerde un peu, on cherche quelque chose à faire, on pense au futur, on veut s'en aller de là, tu sais. On n'est pas complaisant dans... même si c'est un film plutôt nostalgique, c'est pas nécessairement... Ça ne démontre pas comme la fantaisie des ados. Tu sais, parce que je pense que c'est le problème d'un film d'ado, c'est de regarder avec nostalgie être un ado et dire est-ce qu'on était bien dans ce temps-là.
Parce que
personne n'est bien quand ils sont des ados. Tu sais, oui, il y a l'insouciance ici, il y a ça, mais tu n'es pas bien, c'est pas le fun. Puis même quand tu es un joueur de football ou whatever, que un des personnages principaux dans des autres joueurs de football, ça ne te satisfait pas. C'est pas ça que tu veux. Puis je pense que justement. ça me parlait beaucoup à cette époque-là. Puis aussi, tu sais, juste, c'est un film super drôle, super le fun, ludique, puis avec beaucoup, beaucoup de style, tu sais. Puis je trouve que ce que, mettons, Linklater fait avec la musique dans Dazed and Confused, c'est vraiment... c'est simple, là, mais c'est extrêmement efficace. Il y a une scène où ce que Matthew McConaughey sont dans un... comme un bar où ce qu'ils jouent au billard avec Matthew McConaughey. Puis c'est Hurricane de Bob Dylan qui joue sur le... dans le bar. Puis... McConaughey arrive puis il kick la porte, tu sais, c'est des portes sur des battants.
Ouais.
Ça kick exactement au bon bout dans Hurricane quand Hurricane part. Puis tu sais, ça c'est comme, tu sais, juste l'imaginer dans la salle de montage faire, c'est ça, c'est là, c'est, tu sais, j'existe pour ça, c'est pour ça, c'est ça du cinéma. C'est arrivé exactement, tu sais, c'est parfait, la face de McConaughey qui fait quand il kick la porte, qui frappe exactement au bon beat quand Hurricane part. T'sais, je m'en rappelle toujours la première fois que je l'ai vu. T'sais, c'est niaiseux à dire.
T'avais quel âge quand tu l'as vu la première fois?
Je devais avoir... c'était en VHS. Là, fait que je l'ai vu en français la première fois. Ouais, genre 14-15 ans, j'imagine.
C'est le bon âge pour le voir aussi.
Ouais.
Malheureusement, dans mon cas, je l'ai vu peut-être trop tard pour que ça ait cette résonance-là. Puis je voulais l'aimer, ce film-là. C'est ça qui, que je trouve dommage dans mon cas. Là, t'sais, puis je reconnais à quel point c'est un bon film, c'est un grand film. Mais c'est ça, je l'ai vu peut-être... c'est plate, là, mais genre 2 ans trop vieux. Cette espèce de mon secondaire est trop loin pour que je puisse apprécier quelque chose comme ça. Puis c'est bizarre parce que tu sais, je trippe sur tout ce qui est dans le cinéma québécois, là, tu sais, les films comme Tu dors, Nicole, puis Jeune Juliette, ça qui pour moi se rapproche quand même du genre d'adolescence, début d'adolescence que j'ai pu avoir, là, mais t'as-tu.
Ben, tu sais,
moi, ma question un peu par rapport à ça, mais...
parlant de films québécois, il y a À l'ouest de Pluton.
Ouais.
Myriam Véro, je pense que ça s'appelle.
Myriam Véro,
puis la réalisatrice de Quispam, en tout cas. Puis ça, je l'ai... Tu sais, ça sortait en 2006. Je l'ai peut-être vu en 2007. Fait que ça, c'est... Tu sais, mon secondaire était 3 ans en retard. Puis ça, le réalisme de ça, comparé à Dazed and Confused, que ça m'a rendu profondément mal à l'aise. Tu sais, je me souviens d'avoir vu ça, puis d'être comme, tu sais... Parce que, tu sais, quand j'avais comme 20 ans, tu sais, quand t'as 20 ans, t'as des amis qui sont nostalgiques pour il y a 3 ans.
T'sais. Oui.
Puis là, tu regardes À l'ouest de Pluton, puis tu fais, oh, non. Tu sais, c'est la peau grise dans un sous-sol poche, les filles d'un bord, les gars de l'autre, puis tout le monde est mal à l'aise. Tu vas chez ton ami en basic, tu sais, puis c'est comme, il n'y a rien de glamour, c'est totalement, tu sais, c'est la chose la plus. Pop. Triste ou pathétique, mais la moins glamour. Tu sais, c'est la chose la plus voici ce que c'est.
Mais à l'ouest de Pluton, c'est peut-être le Dazed and Confused québécois dans ce portrait-là de la jeunesse. Là. J'en ai parlé dans un épisode précédent avec l'animateur Félix B. Défossé, puis c'était son coup de cœur.
Ouais.
Je comprends. Tu vois, celui-là m'a beaucoup plus touché, mais tellement c'était proche, puis tellement c'était. Il y avait un malaise de...
Ah non, c'est absolument rushant, tu sais. Puis là, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est 8th Grade de Bo Burnham.
Oui, très, très fort aussi.
Qui, je dois dire, tu sais, comme c'est à propos d'une fille, tu sais, puis c'est pas vraiment... Mon expérience, c'est pas ressemble pas tant que ça à ça, mais l'angoisse générale de sa vie venait vraiment me toucher beaucoup. Puis c'est le seul film où j'étais au cinéma, j'étais au visionnement de presse pour le voir, j'étais tellement mal à l'aise que je me suis levé puis j'ai marché. Genre, j'ai fait des allers-retours dans l'allée parce que j'étais comme, je vais mourir, je peux pas regarder ça. C'est comme, c'est la chose, c'est vraiment le... Ça aussi, ça vient toucher sur une affaire qui est pas glamour du tout, qui a rien, tu sais, qui a aucune nostalgie là-dedans. Je pense que dans Dazed and Confused, il y a un peu de nostalgie, mais c'est surtout pour l'époque. C'est des années 70, puis les costumes, puis la musique, puis tout ça. Plus que, tu sais, le sentiment de bien-être qu'on pourrait assigner là, à des ados.
Oui, et c'est probablement ce que Richard Linklater a vécu lui-même.
Oui, c'est ça.
Il a l'âge de ses personnages dans le film au moment où il a vécu la même chose. Ça a l'air... C'est trop proche de la réalité pour ne pas être un peu autobiographique, ce film-là. Là.
Il l'a refait avec Everybody Wants Some, là, il y a comme 5 ans.
Ouais.
Qui est un film d'université, mais à propos d'une équipe de baseball là, qui vit toutes dans une maison ensemble, qui est beaucoup dans ça aussi, tu sais, dans le la spécificité, parce que justement, Linklater est un joueur de baseball à l'université, puis tout ça. Puis, ça, c'est encore plus autobiographique, je pense. Là. Ça se passe, je pense, en 81. Fait que c'est exactement.
Okay, c'est pas loin.
C'est comme une suite, on dit une suite spirituelle, mais c'est vraiment ça. C'est comme. Ça a un peu d'humour un peu bon enfant, tu sais, des méchants, il y a du bon monde, mais tout le monde est un peu de chaque bord. Il y a du monde qui sont fins des fois puis qui sont pas fins d'autres fois. C'est un peu ça avec l'idée. Il y a ça aussi quand tu regardes des Inconfused, il y a des bullies dedans.
Ouais.
Puis il y a du monde qui existe un peu entre les deux. T'sais, Ben Affleck, c'est le gros bully qui se fait vider une canne de peinture sur la tête. Ouais. Mais il y a du monde comme entre les deux, tu sais, une relation que tu as souvent avec des jeunes plus vieux que toi quand tu as cet âge-là, ils t'antagonisent un peu, mais ils te chassent pas. Tu sais. Tu peux chiller avec nous autres, mais en autant qu'on peut te rosser le plus possible.
Ouais.
Puis ça, c'est réaliste aussi. Tu sais, toutes ces affaires-là, je les trouve très réalistes. Fait que, je sais pas, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, mais tu sais, c'est un film que, justement, je regardais énormément. Je pense peut-être la première édition Criterion que j'ai achetée. Je m'en souviens encore à la librairie Volume sur Sainte-Catherine à côté de l'UQAM. Puis, c'est un film que je pense que. Puis, tu sais, Linklater a jamais, pour moi, a jamais topé ça, là, même s'il a gagné des Oscars puis tout. Je pense quand même que Dazed and Confused, c'est pas mal au top là, de ce qui peut se faire. Dans ce style-là, dans le
mais
style
tu me donnes le goût de le revoir. Pour vrai, je vais lui redonner une autre swing. C'est sûr, je vais y retourner à la lumière de ce qu'on vient de se dire. On va passer à ton deuxième film, qui est Uncut Gems, qui est un film de 2019. Donc, c'est assez récent, réalisé par Benny et Josh Safdie, les frères Safdie, qui, eux, en sont à ce moment-là. Eux autres, c'est à peu près leur troisième, quatrième film.
Ouais. Je pense que c'est le. C'est tout ça, c'est le quatrième, mais il y a un documentaire, le cinquième avec le documentaire Lenny Cook. Là, mais
ouais. Ça met en vedette Adam Sandler dans toute une performance. Kevin Garnett qui se joue lui-même, mais qui est probablement le meilleur acteur pour se jouer lui-même.
Ouais.
Lakeith Stanfield, Pom Clementief, Idina Menzel et The Weeknd, lui aussi dans son propre rôle. Où est-ce qu'on le voit péter une coche parce qu'il peut pas faire de la poudre, ce qui est quand même, en tant qu'artiste pop, j'imagine mal Justin Timberlake se jouer lui-même dans
un film,
sauter une coche parce qu'il peut pas sniffer de la coke.
Ouais, c'est rare que quelqu'un, tu sais, ouvertement, parce que tu sais, ça arrive souvent des gens qui font des caméos d'eux-mêmes. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça arrive souvent dans des grosses comédies, mettons, où quelqu'un va jouer une version evil d'eux-mêmes.
Ouais, on a vu Will Ferrell le faire. Puis, c'est souvent dans des comédies. Là.
Mais tu sais, mais même là, genre Sully, là, tu sais, comme dans. Là, je viens de sortir ça, le gars qui fait Sully, là, Chester Sullenberger. Ouais. Il se joue comme un genre de méchant dans Daddy's Home 2. Tu sais, ça, il y a comme un revirement immédiat, là, tu sais, comme « Ah, regarde, on pense qu'il est smart, puis il est hot, mais finalement, il est méchant. » Tu sais, ça arrive souvent, mais il y a pas beaucoup d'attention portée à The Weeknd dans son rôle, tu sais.
Non.
Fait que, tu sais, je sais que, si j'ai bien compris, c'est un ami des frères Safdie, tu sais, c'est quelqu'un qu'ils apprécient, là, genre, fait qu'il a accepté de faire ça, mais ouais, c'est vrai que ça, il y a beaucoup d'humilité plutôt dans Uncut Gems, de tout le monde impliqué.
Complètement. Ça raconte quoi, Uncut Gems? C'est quoi cet ovni de film-là?
Oui, Uncut Gems, ça raconte l'histoire de Howie, qui est joué par Adam Sandler, qui est un bijoutier à New York, dans le Diamond District, qui. A un problème de jeu hors de contrôle et qui met la main sur justement une uncut gem, une pierre précieuse, mais à l'état brut. C'est une roche dans laquelle on voit des pierres précieuses. Et dans le but de la revendre, dans le fond, il l'a eu pour un bon deal, il veut la revendre dans une vente aux enchères. Et Kevin Garnett vient le voir. Et il dit, il adore la roche, il pense que la roche c'est une bonne chose.
Magique,
c'est comme une pierre magique. Fait qu'il part avec, il dit, je peux-tu t'emprunter ça? Ça va être une pierre magique, ça va me porter chance pour ma game. Sandler ou Howie dit d'accord, pas de problème. Ça fonctionne la première fois. Donc, mm-hmm. ce qui fait penser à Howie que la roche est effectivement magique. Et s'ensuit une dégringolade sans fin. Il doit de l'argent à son beau-frère joué par Eric Bogosian. Il est dans la marde par-dessus la tête. Il trompe sa femme avec
Kevin Garnett lui prête sa bague de victoire de la NBA, puis il va panner ça automatiquement.
Immédiatement.
Attends, là. Wayne Gretzky te donne sa bague de la Coupe Stanley, puis toi, tu t'en vas au content.com. Changer ça, là. T'es sérieux, man.
Pour aller faire... puis tu sais, c'est ça. Puis là, il va miser ça sur une affaire compliquée où est-ce qu'il perd l'argent, fait que là, il faut qu'il... Fait que là, il se ramasse dans magouille par-dessus magouille, par-dessus magouille. C'est très, 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 très stressant comme film.
Il n'y a pas un moment de pause. Il n'y a pas une seconde où ça ne crie pas, où tu n'as pas un bruit de la porte qui ouvre avec l'alarme. C'est que ça. Ils sont dehors, il y a des klaxons partout, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui viennent les voir à deux pouces de leur face. C'est tellement...
C'est ça, caméra à l'épaule, très nerveuse. Tout le monde crie. Il y a beaucoup de... Les Safdie utilisent souvent des non-acteurs. Mm-hmm. C'est du monde qu'ils ont rencontré, généralement, si j'ai bien compris. Et, tu sais, ces gens... Puis il y a souvent de ces gens-là qui sont juste placés, tu sais, comme il y a deux personnages... Il y a un personnage que j'adore, un petit dude chauve, là, qui il doit 10 000 piastres. Il doit 10 000 piastres, puis il vient le voir. Tu sais, il est super pas imposant. Puis il vient tout le temps le voir, ça arrive, puis il fait « Howie, you owe me money, Howie. » Puis ce gars-là, il arrive tout le temps au pire moment. Là, des fois, à un moment donné, t'arrêtes de se faire Christine voler, puis ce gars-là, il arrive, puis là, il faut qu'il crie après. Puis c'est ça, Sandler qui est... D'habitude, quand Sandler est utilisé dans un rôle dramatique, c'est pour la partie douce de sa personnalité. C'est un agneau, puis il pète des coches.
Ouais.
Tandis que là, il est tout le temps en train de crier, tout le temps. Puis, tu sais, je trouve ça... En tout cas, je l'ai vu, fait que c'est ça. C'est un film que j'anticipais normalement. Je l'ai vu à Toronto en première nord-américaine, je crois. J'anticipais normalement parce que j'avais vraiment aimé Heaven Knows What et Good Time, les deux avant. Puis, tu sais, moi, j'étais un gros fan d'Adam Sandler, tu sais, plus la personne que ses films, je te dirais. Là,
okay. Je trouve ça intéressant, dans quelle mesure?
Ben, moi, je trouve que c'est un acteur, un comédien extrêmement intéressant parce qu'il se protège.
Mm-hmm.
Il est extrêmement sur ses gardes tout le temps. Pour moi, le Rosetta Stone de comprendre Sandler, c'est son special de stand-up qui est sur Netflix.
Oui, qui est très bon.
Où est-ce qu'il s'arrête dans le milieu puis il fait une toune triste à propos de s'ennuyer de son ami Chris Farley.
Ouais.
Qui c'est vraiment touchant, étrangement touchant.
C'est une bonne chanson, puis il l'a faite à Saturday Night Live. Puis il y a toujours un écran qui diffuse une image de Chris Farley, mais là, comment ils l'ont fait à Saturday Night Live, parce qu'ils n'ont pas un amphithéâtre, il y avait une télé à côté de lui, puis à la fin, l'image qu'ils ont mis de Chris Farley, c'est vraiment comme si les deux se regardaient.
Mm-hmm.
C'est pognant comme moment, c'est vraiment fort cette tune-là.
Ben, c'est ça. Puis moi, tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, tout ce que Adam Sandler fait, c'est parce qu'il a peur que ses amis meurent.
Mm-hmm.
Tous ces films de merde, que c'est juste lui et ses amis qui vont au Kmart rire du monde, là, c'est pour donner des jobs à ses amis, pour pas que ses amis aient des problèmes, pour pas que ses amis meurent.
Mm-hmm.
Tu sais, parce que ça l'a tellement décrissé que son ami meurt, que là, il est comme ça va plus jamais arriver. Ouais.
T'sais, il dit dans la chanson, il dit « Si t'étais encore vivant, on serait dans l'avion en ce moment pour aller tourner Grown Ups 3.
Mm-hmm. »
Ils en ont fait deux à date, là, des Grown Ups.
C'est ça. Puis là, quand tu vois, puis là, quand tu utilises ça pour expliquer, dans le fond, pourquoi les films d'Adam Sandler sont aussi mauvais, pourquoi c'est, tu sais, lui, puis c'est tourné super flat, il va quelque part, sa femme est belle, puis il rit d'un gars handicapé, puis il tombe ses fesses, puis, tu sais, whatever, quelqu'un se fait manger de pénis par un homme, genre. c'est parce que c'est low effort. Puis moi, je me disais, tu sais, comme probablement que si moi j'étais l'ami d'Adam Sandler, je serais tellement content d'être là puis de chiller avec mes. Je veux dire, tu sais, je suis pas plus cave qu'un autre. Là. Mes amis, des fois, on est cave, on fait des affaires cave.
Mm-hmm.
Ça, on fait pas de mal à personne, mais on est assis là puis on niaise, on déconne.
Ouais.
Puis je suis comme, lui, il a trouvé une façon d'être payé, que studio, il donne 85 millions pour déconner avec ses amis. Fait que, tu sais, il va le prendre, c'est normal. Mais après ça, on voit, tu sais, que les rôles dramatiques de Sandler, je pense, sont une véritable expression de lui-même, tu sais. Mm-hmm. Puis, Meyerowitz Stories, ouais. Tu sais, de Noah Baumbach, dans les comme 10 premières minutes, il y a une scène où Adam Sandler joue du piano avec sa fille, il joue une toune qu'il a écrite pour elle quand elle était petite, puis je me suis mis à brailler au cinéma. Mm-hmm. Puis là, le film venait juste de commencer, tu sais. Fait que genre, tu sais, je connaissais pas les personnages, je connaissais pas, tu sais, c'est au début. Puis, c'est parce que, justement, je pense qu'il y a comme une humilité ou, je sais pas, comme une candeur à quand Sandler enlève le bouclier de genre « Moi puis mes amis, on va rire de toi.
Mm-hmm. »
Que, tu sais, j'ai l'impression, là, c'est, je m'avance, là, j'ai l'impression de le connaître plus que je connais n'importe quel autre comédien.
Oui, non, tout à fait.
Ça fait pas de lui un comédien particulièrement caméléonique, là, tu sais, mettons, ils se font pas dans des performances. Là.
Non, mais... ben, sauf... On y reviendra, mais en même temps, c'est...
Mais tu sais, j'ai tout le temps comme le je sais pas, genre, je trouve toujours ça très touchant quand il s'ouvre dans un film dramatique, même, il y en a des astis de mauvais, là, Men, Women and Children de Jason Reitman, là, c'est pourri.
Okay.
Sandler est super bon dedans. Il est super bon, il est super réel et touchant. Et le reste de ce qui l'entoure, c'est de la merde. Spanglish aussi, c'est ça, de James L. Brooks.
Funny t'sais. People.
Ouais, ben Funny People, c'est comme un bon film, je pense. Là. C'est long, puis c'est laborieux, mais oui. C'est à la base bon. Mais c'est ça, tu sais, je pense que Punch Drunk Love ou même un que personne parle, Rain Over Me, où est-ce qu'il est triste parce que sa famille, ils sont morts dans l'11 septembre, puis il ressemble à Bob Dylan. c'est pas full bon non plus, mais écoute, tu sais, je veux dire, il fait la job. C'est un bon comédien, je crois. Mais il est souvent utilisé à l'intérieur de ce que le réalisateur perçoit comme ses limites. Puis Uncut Gems, c'est un film où ce que les frères Safdie ont fait, Adam, tu n'as pas de limites.
ouais.
C'est fait tout, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, je trouve que c'est comme... Je me souviens quand la production, quand ils ont annoncé Uncut Gems tout après Good Time, ça allait au début être Jonah Hill qui allait jouer le rôle parce que je pense que Sandler avait un problème, je sais pas, il y avait quelque chose qu'il pouvait pas faire, puis il était comme, si il faut qu'on tourne le film, ça va être Jonah Hill à la place. Puis je suis comme, une chance que c'est pas ça qui est arrivé. Parce que, tu sais, c'est aussi un très bon comédien, tu sais, comique, dramatique, mais c'est pas Uncut Gems. Uncut Gems, là, c'est un air exposé. C'est quand t'as mal au... C'est une rage de dents, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est...
Étrangement, ça reste un film, entre guillemets, de Adam Sandler.
Mm-hmm.
Tous les codes, sauf ses amis, mais tous les codes d'un film de Adam Sandler sont là pareil.
Mm-hmm.
C'est un gars qui est excellent dans quelque chose, que ce soit du football, que ce soit au hockey, au golf. Là, il est bon pour faire du gambling. Il est bon pour faire des paris sportifs.
Mm-hmm.
Mais il est juste trop bébé pour réussir son affaire.
Ouais. Puis il est pas capable de voir le big picture. Il est pas capable de se reculer assez pour voir ce qui se passe. Il est tout le temps dans le moment. Puis tu sais, c'est ça, il agit avec immaturité. Tu sais, la scène justement où il va voir The Weeknd, puis là, il se chicane avec sa blonde dans la rue, avec sa grosse chemise rose déchirée. puis tu sais, tu le vois, c'est un enfant, c'est un bébé. Ouais. Il y a une scène où il pleure, là, « I'm so fucked up », puis il y a des Kleenex dans le nez, genre. Puis c'est comme, hey, tu sais... Puis il y a une grosse maison en banlieue, puis tout, puis il y a des enfants, puis un gros char, puis tout. Puis dès que ça chie, il braille, tu sais, à un moment donné, il est tout nu, il est attaché tout nu dans, ou en bobette dans le coffre de son propre char, puis il appelle sa femme pour qu'elle vienne le sortir.
Pendant qu'il y a un show d'enfants, ben le show de ses enfants à l'école. Je veux dire, tu verrais ça dans n'importe quel autre film de Adam Sandler quand même.
Mm-hmm.
C'est ça qui est fou. De lui qui se met à pleurer comme un gros bébé qui est, tu sais.
Mm-hmm.
Tu le verrais pareil quand même. dans ses autres films.
Mais il y aurait une rédemption quelconque, tu sais, il y aurait Nick Nolte qui fait le méchant, puis que, là, à la fin, il se fait kicker dans les couilles, puis tu sais, puis le Sandler, même si c'est pas une bonne personne, a triomphé, tu sais.
Oui.
Parce que c'est ça, c'est pas écrit avec beaucoup de nuances. Mais Uncut Gems, tu sais, c'est ça. Puis mais moi, c'est vraiment aussi, je parle juste au niveau réalisation. Comme je te disais, je l'ai vu au plus gros cinéma, là, le deuxième plus gros théâtre qu'ils utilisent pour faire des films à TIFF. J'étais assis à trois rangées en arrière de Sandler, puis des frères Safdie, puis de Lucky Safir, puis de Weekend. Tout le monde était là, tu sais. Kevin Garnett. Puis...
non, t'es pas à trois rangées de Kevin Garnett, t'es à une rangée de Kevin Garnett, tellement il est grand, les
ouais, c'est ça.
Rangées.
Mais tu sais, puis fait que tu sais, évidemment, c'est semi-immersif, là, tu sais, t'es tassé, il y a full de monde au cinéma.
Mm-hmm.
Puis je pense que j'ai respiré dans la première seconde, puis j'ai expiré 2h20 plus tard, tu sais. Puis après ça, tu sors de là, puis tu sais, c'est comme, c'est décrissant. J'étais dans la rue à Toronto, puis j'étais juste comme... c'est vraiment anxiogène. Puis moi, j'aime vraiment ça, tu sais. Moi, j'étais honnêtement, là, mon expérience de cinéma parfaite, là, celle que je recherche à chaque fois, là, c'est une immersion totale anxiogène.
Mm.
Tu sais, d'être pogné dans un film, puis de pas respirer, puis de pas penser à d'autres choses. Puis tu sais, ça m'est arrivé ce qui est intéressant, c'est l'autre fois que ça m'est arrivé, c'était Green Room Jeremy Saulnier. Puis ça, comme Uncut Gems, je l'ai vu deux fois au cinéma, puis la deuxième fois, c'était pareil que la première fois. Je savais tout ce qui se passait.
Ouais.
J'étais quand même genre le trou de cul serré, puis genre... tu sais, la deuxième fois que j'ai vu Uncut Gems, c'était au cinéma moderne, c'était le visionnement de presse, puis c'était... Ouais. Quelque chose comme deux semaines après que je me fasse frapper par un char, j'avais le genou fracturé.
Oh boy!
C'était la deuxième fois que je sortais de chez nous depuis que j'avais eu l'accident. Puis j'étais tellement hype d'aller voir Uncut Gems, ça n'a aucun sens. puis c'est ça qui est arrivé, tu sais, j'avais super mal, j'étais super mal assis parce que tu sais, j'avais des béquilles et tout. Puis pendant 2h20, j'ai juste cessé d'exister, j'étais dans Uncut Gems. Fait que pour moi, ça, c'est le plus grand honneur qu'un film peut avoir. Là.
J'ai l'impression que c'est le genre de film. Si t'as mal physiquement, ça devient encore plus trillant de le regarder.
Ouais, dans un sens, ouais. C'est comme avoir un otite. Tu sais, quand t'as un otite, ça résonne dans la tête. Là. Mm-hmm. Uncut Gems, c'est comme un otite un peu. C'est juste comme le film résonne. T'sais, tu le sens avec tout ton corps.
Je trouve que le film réussit l'exploit. Tu sais, quand tu regardes, quand tu connais un peu New York, quand tu connais la géographie de Manhattan, là où ça se passe. Ce film-là, le Diamond District, c'est... T'es à 3 minutes à pied de Times Square.
Mm-hmm.
T'es à côté des doutes de 47 ans qui se déguisent en Elmo et en Buzz Lightyear. Là.
Ouais.
La grosse goutte dans toute la journée. Puis, en même temps, t'as l'impression... Tu sais, c'est un quartier quand même touristique à New York. C'est pas loin de Fifth Avenue, tout ça. T'as quand même l'impression d'être dans le même New York que Taxi Driver.
Mm-hmm. Ouais, absolument.
On pourra en reparler, mais il y a un autre film de 2019 qui a essayé d'être le New York de Taxi Driver qui réussit pas, à mon avis. Mais les frères Safdie ont réussi à montrer le New York où tu veux jamais aller.
Ouais.
Mais le New York que tout le monde vois, pense.
Tu sais, énormément dans des films. Moi, au voyeur de vue, à mon podcast, je parle souvent des films suants. Tu sais.
Ouais.
Puis. Le prochain film de quoi on va parler, ça, c'est un film qui est littéralement suant, mais il y a aussi être un film suant dans l'esprit. Puis je pense que, tu sais, moi, ce que j'adore de ça, les films fin des années 70, début des années 80 qui se passent à New York, tu sais, des films d'Abel Ferrara, mettons, c'est que ça pue. C'est des films qui puent, qui respirent, qui suent, puis t'es dedans. Tu sais. Puis Uncut Gems, tu sais, quand on va à New York maintenant, tu sais, moi, la première fois que j'étais à New York, déjà, c'était peut-être 2006, 2007. C'était déjà plus comme ça, tu sais.
Ouais.
J'ai jamais vécu le New York sale pré-Giuliani, tu sais. Mais quand t'es dans Uncut Gems, tu te rends compte que, tu sais, ce New York-là, il existe encore, il est juste rendu au sixième étage. Tu sais, il est plus sur le coin de rue. Mais ce monde-là, ils sont encore là, tu sais. Les magouilleurs, les crasseurs sont dans des cuisines de restaurants. C'est ça. Puis dans des bureaux louches. C'est juste le bureau dans lequel la bijouterie se trouve parce qu'il n'y a pas pignon sur rue. Là.
Ouais.
Il est dans un genre de building gris poche au 18e étage dans une place où tu dois buzzer puis il y a une caméra. C'est... En tout cas, tout ça, là, l'urbanité glauque J'adore ça dans les films et j'adore ça dans Uncut Gems particulièrement. Mm-hmm.
Ouais. Ton troisième film maintenant, Wake and Fright, 1971, oui, de Ted Kotcheff, réalisateur canadien à qui on doit de Dick Kravitz, je ne pourrais pas me souvenir du nom complet. Ouais,
the Apprenticeship of Daddy Kravitz.
Merci. Il y a aussi... il y a un film que je nommerai pas, il reviendra. Il y a aussi réalisé Weekend at Bernie's. Mm-hmm. Si ça peut le replacer. C'est pas un film sur un temps, c'est un film de décrépit. Ça met en vedette Donald Pleasance qu'on a pu voir dans la série des films Halloween jouer Loomis. Ça met aussi en vedette Gary Bond et Chips Rafferty. Je ne connais pas du tout Wake and Fright.
Ouais.
C'est la première fois que j'entends ce titre-là. C'est la première fois que je prends connaissance de cette œuvre. C'est quoi? C'est quoi Wake and Fright?
Donc, c'est un film, tu sais, c'est un des premiers. Il y a un vraiment bon documentaire qui s'appelle Ozploitation.
Mm-hmm.
Non, Not Quite Hollywood, The Wild Untold Story of Ozploitation. Puis ça parle, dans le fond, de l'Australie, quand l'Australie a voulu se partir une industrie cinématographique propre à elle, comme on a fait au Canada avec l'ONF, plutôt que de faire ça, ils ont fait des films de genre, généralement. Ouais. C'est beaucoup de films d'horreur, beaucoup de trucs de thriller, puis de films, ce qu'on a fait au Québec, des films de sexe, là, de tombage sexuel dans un gâteau.
Le Canada anglais a beaucoup fait ça, des films d'horreur, ouais. Cronenberg et compagnie. Là.
Ben ça, il y a eu ça un peu plus tard, parce que okay. Ça, c'était le CDC, là, c'est quand c'était rendu que tu pouvais mettre ça sur tes impôts, puis tu pouvais pas essentiellement... Le Canada a fait un genre de producers d'eux-mêmes et a mis une clause comme de quoi tu peux essentiellement pas perdre d'argent en mettant de l'argent dans un film canadien.
Ouais.
Fait que ça a fait beaucoup de marde, là. C'était des films qui existaient juste pour exister. Mais c'est ça, Wild at Heart, c'est comme au début. Puis c'est pour ça que Kotcheff était rendu en Australie, parce que lui, dans le fond, c'est un Canadien, mais il travaillait en Angleterre. Puis il n'y avait pas de réalisateur essentiellement formé en Australie tant que ça. Fait qu'il fallait qu'il aille les chercher ailleurs. Comme on a fait quand on a fait tous ces films de marde-là des années 70. Mm-hmm. Et Wake and Fright, c'est l'histoire d'un professeur d'école là, qui se fait shifter dans une petite ville du Outback qui s'appelle Tibunda. Puis là, quand il veut... Là, c'est les vacances de Noël. Il veut retourner à Sydney voir sa blonde. Et il doit prendre le train pour aller à Tibunda. Puis il se ramasse pogné à une autre place qui s'appelle Bundanyaba, que eux ils appellent de Yaba, qui est un vraiment petit village weird là, dans le désert, où est-ce qu'il se rend compte que c'est une communauté plutôt je voudrais dire psychotique. Il n'y a comme rien à faire. Le monde il vire fou d'être tout seul dans le petit village. Il y a un bar, il y a presque juste des hommes dans le village. Tout ce qu'ils font, c'est se saouler, aller à la chasse au kangourou. Puis là, c'est là qu'ils rencontrent Donald Pleasance, qui est comme le docteur, so to speak, de la ville, qui s'est fait comme chasser de Sydney parce qu'il était trop alcoolique puis il était trop fucked up. Fait que là, il est rendu le docteur de ce petit village-là. Puis fait que c'est un film, comme Uncut Gems, qui se passe sur une très petite période de temps, qui est très immersif, qui est extrêmement... Tu sais, c'est un film où tu as chaud, même s'il fait fret là, quand tu le regardes. Puis, c'est un film, justement, c'est ça, qui fait juste monter la tension constamment, tu sais. Où est-ce que tu vires fou avec le personnage, tu sais. Mais tu vires fou d'une façon, c'est jamais surnaturel, c'est jamais exagéré, tu sais. C'est juste un très, très mauvais layover, tu sais. C'est juste, ça va super mal, tu sais. C'est la pire façon de passer le temps que tu as passé là. Puis... Comme toi, j'avais jamais entendu parler de ce film-là avant qu'il y ait une restauration. Parce que ça avait été considéré comme un film perdu pendant des années.
OK.
Il existait comme une seule copie 35 mm connue, puis elle était dégueulasse, ils ne pouvaient pas la ressortir. Finalement, ils en ont trouvé une dans une archive quelque part. Puis en 2010, en 2010, à Fantasia, ils ont passé la version restaurée. Fait que moi, je suis allé voir ça, puis tu sais, j'aime bien ça aller voir les films restaurés à Fantasia parce je sais, tu sais, c'est souvent comme sorti de nulle part, puis c'est des films que tu risques de ne jamais revoir dans une salle. Comme la majorité des films de Fantasia, mais tu sais, si t'as loupé ton coup 40 ans auparavant, comme avec Wake and Fright, en n'étant pas vivant, tu peux te reprendre, tu sais. Puis moi non plus, je connaissais rien de ça, tu sais. Puis Ted Kotcheff était là, puis il a fait une introduction, puis tout. Puis il est arrivé une situation comme Uncut Gems, dans le sens où que, dès que c'est commencé, j'ai pris une respiration, puis j'ai pas respiré du film. Parce que c'est un film, tu sais, c'est pas un film aussi tonitruant et gueulant là, que Uncut Gems, mais c'est un film vraiment, vraiment immersif où est-ce que, tu sais, ça devient de pire en pire, mais de façon tellement naturelle qu'à un moment donné, tu te rends compte, là, je suis pas bien, là, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, quand ils vont à la chasse aux kangourous ou ils jouent à des weird jeux, là, de, tu sais, comme un peu jouer à, tu sais, des jeux pour boire, mais... De, ouais. Tire des scènes contre le mur, puis lui, il comprend pas, puis là, il est forcé à boire, tu sais. Puis à un moment donné, il est sous ben raide, puis il comprend pas où ce qu'il est, puis tu sais, c'est super. C'est pas... Tu sais, de dire que c'est un film de genre, c'est j'imagine un film d'horreur, parce que ça serait une horreur que ça t'arrive. Mais tu sais, c'est pas un film qui joue dans l'horreur, là, en tant que tel, tu sais, avec les codes de l'horreur.
Ouais.
Mais, tu sais, c'est un film que... Puis, je me suis là, ça fait longtemps que je l'ai réécouté, mais quand je l'ai vu, en premier lieu, j'étais pas capable d'arrêter d'en parler. J'en parlais à tout le monde, tu sais, puis à ce moment-là, ça avait juste passé à Fantasia, tu sais. Je suis pas sûr s'il y avait un Blu-ray ou quelque chose. Fait que c'est un film, tu sais, qui m'obsédait un peu, tu sais. Ça m'obsédait parce que, puis tu sais, c'est quelque chose qui arrive de moins en moins, d'arriver devant un film puis de savoir rien du tout sur le film. Ouais. Tu sais, c'est comme presque impossible maintenant. Fait que, quand ça arrive, c'est incroyable. Ça m'arrivait entre 2010 puis 2012. Donc, à la même période que j'ai vu Wake and Fright, il y avait sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal un cinéma qui s'appelait Blue Sunshine.
Okay.
Je sais pas si tu connais ça.
Pas du tout.
C'était comme à la hauteur du Beefsteak, là, tu sais, comme fait
que au
sud de Despins, dans un loft. Puis c'était deux personnes ben, qui sont maintenant mes amis, David Bertrand et Keila Janis, qui, eux, avaient comme un background, justement, tu sais, de travailler pour des festivals. Les deux ont travaillé pour Fantasia par la suite, tout ça. Puis, ils avaient loué un loft, puis ils avaient mis un cinéma là-dedans, puis ils passaient des films en 16 mm, jeudi, vendredi, samedi. Wow. Puis ça, je voulais en parler, parce que même si ça n'a rien vraiment à voir avec Wake and Fright, c'était dans cette période-là de ma vie où est-ce que, tu sais, ça a vraiment été important pour moi là, dans mon développement de cinéphile parce que à tous les. Tu sais, j'y allais au moins une fois par semaine, souvent deux. Je me lançais dans le vide. Je savais pas qu'est-ce que. Tu sais, je voyais qu'est-ce qu'on allait voir. Jamais je savais c'était quoi le film. Tu sais, puis j'ai vu des films là-bas où, tu sais, comme un film qui s'appelle Payday avec Rip Torn qui vient de mourir. Oui. Là, où est-ce que Rip Torn joue un chanteur de country là, totalement défoncé, tu sais, un peu. Tu vas voir qu'est-ce que j'aime, moi, c'est les films qui se passent sur un court laps de temps avec monde complètement défoncé. qui est complètement défoncé, tu sais, hors de contrôle, il cale du whisky puis il décrisse tout. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment important dans la vie, si t'es cinéphile, de te donner des expériences comme ça, tu sais, de te mettre dans des situations où est-ce que tu as cette expérience-là. Puis, tu sais, ça va pas toujours. Des fois, des films, tu sais pas c'est quoi, tu le regardes, ben, c'est ordinaire.
Ouais, mais des fois, c'est d'être surpris. Puis, c'est de se mettre en danger, en fait.
C'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Wake and Fright, tu te mets en danger figurativement. Je me mettais en danger figurativement parce que je savais pas c'était quoi.
Mm-hmm.
Puis, tu te sens en danger, littéralement, quand tu le regardes, que c'est un film. Tu sais, qui respire et qui transpire le danger.
Ouais.
C'est comme... C'est très rushant comme film. Puis, tu sais, c'est pas... Tu sais, je dirais pas que c'est comme super violent, ou tu sais, mais c'est glauque, là. Tu sais, c'est vraiment pas le fun.
Ouais.
Fait que c'est un film, justement, que ça fait quelques années que je l'ai pas vu, puis j'y pense quand même souvent.
C'est ça. C'est intéressant, cette prémisse-là de quelqu'un qui arrive dans un village, puis il y a des gens qui s'arrangent pour lui faire vivre un cauchemar, parce que Ted Kotcheff, 10-11 ans plus tard, fait sensiblement un film avec une prémisse semblable, qui est First Blood, le premier Rambo, avec Sylvester Stallone. J'ai pas vu Wake and Fright, donc tu me le diras, mais est-ce que, en quelque part, Wake and Fright, c'est un peu le laboratoire de Rambo ou pas du tout?
Ben oui, je pense que oui. Tu sais, je pense que ça joue dans les mêmes... C'est dans les mêmes cordes. Je pense que le ton est assez différent. Wake and Fright est extrêmement un film des années 70, puis Rambo est extrêmement un film des années 80. Ouais. Fait que, même si le First Blood, le premier, on l'oublie parce que des fois, on le mêle avec les autres. Et c'est plutôt un film psychologique, là, plus qu'une affaire où ce que tu sais. Il mitraille 45 doutes et il fait exploser des hélicoptères.
Ouais, c'est pas un film où est-ce que Rambo retourne au Vietnam pour se venger. Là.
Ouais,
pas,
ou comme là maintenant, j'ai pas vu le dernier, mais l'autre d'avant, tu sais, juste Rambo de 2008, là.
Ouais, ouais.
Où est-ce que, comme il y a des flèches qui explosent, là, il fait exploser du monde. C'est pas ça qui arrive. Puis, mais si mais je pense que si vous avez vu First Blood puis vous appréciez le ton puis le suspense, tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans. Dans First Blood, Wake and Fright, c'est ça aussi. Là. Mais tu sais, avec justement, puis aussi, ça se passe dans l'outback australien, tu sais, comme on dirait que la pellicule est sur le bord de fondre. Là, c'est un film là, qui a chaud. Là, c'est un film qui a chaud. Puis je pense que c'est... Tu sais, j'ai vu comme quand même pas mal de films australiens de cette période. Il y en avait d'ailleurs sur Criterion jusqu'à tout récemment. Il y avait comme un programme de Australian New Wave.
OK.
Puis. Tu sais, en général, je te dirais que l'Australie, dans ce temps-là, a beaucoup... ça parle beaucoup... c'est beaucoup en dialogue avec les films américains des années 70, tu sais, de crimes, là, tu sais. Pas nécessairement le parrain, mais tu sais, The Friends of Eddie Coyle ou The French Connection, des choses comme ça.
Ouais, ouais.
C'est beaucoup là-dedans, là, tu sais, du monde, là, qui vont, tu sais, buter leur frère pour 12 000 puis des shit de même, là. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, encore là, ça me parle, là, tu sais, de la racaille de bas niveau, là. Pas des parrains, j'aime ça, mais tu sais, moi, là, 15 coches plus bas, là, tu sais, le gars qui poignarde son ami parce que... Il peut faire 800$ puis prendre l'autobus pour se sauver. Là. C'est ça qui me parle. Wake and Fright, c'est ça. Là. C'est des enjeux très minimes, mais c'est tout.
Mm-hmm.
Comme dans Uncut Gems. C'est comme...
Parfait. On va faire une petite pause là-dessus. Et au retour, on va se rendre compte que justement, la violence et les troubles que vivent le Joker de Joaquin Phoenix parlez bien fort en comparaison du western punk qui est Straight to Hell. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/onjasedefilm. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadosaurus, John Vanas, Tout Simplement Joe, Zachary Cyr, Bellec, ainsi que Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/onjasedefilms. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et... bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyez votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Alex Rose, avec qui, en première partie, on a jasé des films Wake and Fright, Days and Confused et Uncut Gems. Le film que tu détestes, c'est une détestation partagée, c'est Joker 2019 de Todd Phillips.
Oui.
Les auditeurs du début vont me dire « Ouais, t'en as déjà parlé avec Samuel Archibald. » C'est correct, j'ai assez pour pouvoir en reparler en mal une deuxième fois. C'est mon podcast. Si vous avez aimé Joker, vous pouvez skipper à un certain temps.
Ben, tu sais, je dirais que je déteste pas Joker, tu sais.
Mm-hmm.
Mais de tous les films qui ont été aimés, qui ont gagné des prix, il y en a souvent que j'aime pas non plus, tu sais. Ouais. Mais je comprends toujours qu'il y a quelque chose là, tu sais. Mm-hmm. Tandis que moi, Joker, ça, tu sais, on dirait que l'adulation de Joker me passe 10 000 pieds par-dessus. Je comprends pas. T'sais, c'est ça que je comprends pas, dans le fond. Tu sais, c'est pas... Je dirais pas que Joker, c'est de l'hastie de merde ou tu sais, que c'est y a rien de bon dedans. Sauf que je le regarde, puis je fais « OK, ouais, tu sais, c'est ce que c'est.
Mm-hmm. »
Puis là, je me vire, puis tout le monde est comme... Quel portrait de la folie.
Tu te demandes, c'est moi qui a manqué quelque chose.
Ben c'est ça. Puis tu sais, je l'ai vu deux fois à cause de ça. Fait que tu sais, pour revenir sur l'histoire, là, j'ai vu Joker la même semaine que j'ai vu Uncut Gems.
Ouais, c'est sûr que...
Puis tu sais, la première fois. Puis, tu sais, c'était... Fait que C'est à Berlin que ça a gagné?
Ouais. L'ours d'argent à Berlin.
Ouais, exact. Puis Berlin, ça overlap avec Toronto. Fait que le dernier jour de Berlin, c'est comme la deuxième journée de TIFF, quelque chose comme ça.
Ouais.
Fait que tu sais, il y avait déjà du buzz de Joker, tu sais, qu'on n'était pas sûr. Puis tout le monde en parle un peu comment, ouais, Joker, ça s'en vient. Ça a joué à Berlin, ça a tout gagné. Puis là, tout le monde à Toronto, tu sais, c'était palpable. Là. Tu fais la file pour un film, puis là, tu parles à du monde que tu ne connais pas.
Mm-hmm.
Puis là, tu te dis, t'étais-tu à Berlin, t'as-tu vu Joker, t'as-tu ci, tout ça, tu sais. Puis mon intérêt a grimpé en flèche quand ça a gagné.
Ben oui.
Parce que là, j'étais comme, Chris, OK, peut-être que, genre, ça ne sera pas la chose qu'on pense que c'est, tu sais, parce que, tu sais, moi, ça devient immédiatement suspect quand quelqu'un est comme, c'est psychologique, c'est not your daddy's Joker, c'est pas qu'est-ce que vous pensez que ça va être, tu sais. Mm-hmm. Puis, mais là, j'étais comme, ben, ça, tu sais, Berlin, c'est pas.
C'est
des fois, il y a des affaires wack qui gagnent d'autres festivals, mais tu sais, d'habitude, Berlin, ça va quand même relativement bien. C'est pas comme, tu sais, mettons, à Sundance, qu'est-ce qui gagne, c'est souvent qu'est-ce qui fait le plus de plaisir à le plus de gens possible, là, tu sais. Puis à Toronto, c'est ça, c'est un vote populaire. Fait que, tu sais, tu t'attends à ce qu'à Toronto, ça soit Green Book qui gagne parce que c'est pas un jury qui décide.
Ben non, c'est ça.
Fait que je suis rentré, je l'ai vu, c'est ça, à Toronto. Puis je suis sorti de là, puis j'étais comme, eh, OK, ça va faire un genre de pet mouillé là, quand ça va sortir. D'après moi, c'est comme, tu sais, je trouve que, ben, tu sais, là, pour le dire, je trouve que ça calque énormément sur Taxi Driver et sur King of Comedy. Tu sais, puis plus, tu sais, des éléments d'histoire de King of Comedy, plus le style puis le ton vient plus de Taxi Driver.
Ouais.
Puis, pour moi, c'est comme... C'est comme un mime de la princesse Léa avec du maquillage de Ziggy Stardust, là, tu sais, genre.
Oui.
Tu sais, ou tu sais, comme Yoda avec peinturé en kiss, là, tu sais, c'est comme... C'est pas parce que tu mets ces deux choses-là ensemble que...
Que ça marche.
Que ça veut dire quelque chose.
Ouais.
Puis c'est un peu ça pour moi. Je trouve que les qualités plastiques de Joker sont vraiment bonnes. C'est un beau film.
Oh, oui,
musique est vraiment bonne. Là. C'est, je ne pourrais pas prononcer son nom, mais une violoncelliste islandaise là, qui fait de la musique actuelle vraiment fuckée. Je n'écouterais peut-être pas la bande sonore de Joker tout seul de même parce que c'est comme... Je virerais Joker totalement coucou, genre, tu sais. Mais tu sais, je trouve que c'est un beau film. Je trouve que, puis tu sais, je trouve que Joaquin Phoenix fait des choses intéressantes.
Mm-hmm. Mais tu sais, le problème aussi, c'est que tu viens de le dire, Joaquin Phoenix fait des choses intéressantes, mais les acteurs autour de lui, tu peux mettre des panneaux en carton.
Bon,
de
c'est clair.
Niro, Zazibi, de Mark Maron qui est là pour on sait pas quoi. Brett Cullen qui est là parce que. Alec Baldwin n'a pas voulu reprendre son rôle de Donald Trump pour jouer Papa Wayne.
Ouais.
Mais tu sais, ces gens-là sont là, puis ils amènent très peu de choses autant dans leur jeu que dans ce qu'ils doivent incarner.
Mais c'est puis c'est là que moi je trouve que tu sais que c'est là que je catch pas, tu sais. Moi c'est tout en surface Joker. Tu sais c'est de la parure, puis tu sais, je vais te le donner, là, je vais vous accorder ça. C'est de la belle parure, c'est un beau film, tu sais. Comme, je peux absolument comprendre, mettons, de style, mettons, dans un bar, tu fais ton DJ night, tu passes Joker, tu sais, le monde va regarder, c'est attrayant pour l'œil.
Ouais.
Mais moi, je trouve qu'il n'y a aucune substance là-dedans, puis toute la substance vient justement d'une transposition par rapport de ce qu'on sait du Joker. Comme je te dis, c'est Yoda avec du maquillage de Kiss. T'sais, c'est comme What if le Joker était Travis Bickle? Pis c'est comme, ben ouais.
Ben ouais,
t'sais, ça se fait, ça se fait, ça. Mais là,
c'est une bonne idée. C'est très bien, bravo.
Mais t'sais, c'est un peu l'affaire que je dis. T'sais, quand Steven Soderbergh fait un film ordinaire, je suis tout le temps comme, ben, je suis content de l'avoir vu, mais il fallait le faire pour voir que ça se fait pas, dans le fond.
Ouais.
Parce que Steven Soderbergh, il fait des expériences. T'sais, il filme un thriller d'horreur avec un iPhone, puis tu sais, il fait un film que si, que ça, puis des fois, tu sais, The Good German, je vais faire un film, puis ça va être comme dans les années 40. Puis là, tu le regardes, tu fais, c'est zéro venu me chercher, mais...
Ouais, mais...
Fallu qu'on le fasse pour que je sache que ça vient pas chercher, puis le Joker, c'est ça un peu, tu sais. Je pense que je méprise pas les gens qui aiment ça, tu sais, puis T'sais, je peux comprendre aussi que dans un trip esthétique, il y a du monde pour qui c'est plus ça, là, le cinéma aussi.
Mm-hmm.
Fine. T'sais, mais pour moi, c'est vraiment, c'est de la parure, c'est un peu, c'est du toc, là, c'est en carton.
Ouais.
Puis, je suis retourné le voir. Je suis revenu de TIFF, j'ai dit à tout le monde que je trouvais que Joker, c'était de la merde. Je suis retourné le voir au visionnement de presse, qui était comme quelques semaines après. Encore pas aimé ça.
Mm-hmm.
Fait que là, je me suis dit, j'ai donné une chance. T'sais. Je me suis sorti un peu aussi du hype. T'sais. Des fois, voir un film dans le festival, c'est pas idéal. T'sais, tu vois cinq, des fois six films d'une journée.
Ouais.
Tu rencontres une équipe, après ça, il faut que tu regardes un film. Puis tu fais ça, ouais, c'est 6 sur 10. T'sais. C'est pas toujours idéal.
Mm-hmm.
Mais je l'ai réécouté, puis encore, j'avais l'impression d'une, un peu d'une peinture par numéro.
Mm-hmm. Ah oui, non, c'est ça. C'est ça.
Puis, je sais pas, tu sais, moi, ça, émotionnellement puis intellectuellement, Joker a rien. T'sais. Pour moi, il n'y a rien qui se passe. Là, mais je trouve quand même que c'est un beau film, puis genre pour, puis ça me surprend. T'sais, en même temps, j'allais dire Todd Phillips fait de la merde, mais j'aime vraiment War Dogs. <T'sais>, qui est comme... juste un rip-off de Goodfellas, encore juste du Scorsese,
ouais, ouais, ouais.
Mais avec un peu plus, avec un peu moins de prétention de venir nous dire que ça comprend, que ça nous dit des choses à propos de la société. Là,
ouais, ouais, ouais.
Mais encore là, ces choses-là ne sont pas nécessairement contenues dans le film. On voit... Le personnage du Joker est super chargé. Sans que Joker de Todd Phillips existe.
Mm-hmm.
Le monde met beaucoup sur le Joker. Le monde a beaucoup d'attentes ou whatever. Il voit un peu comme une clé qui va déchiffrer les choses. Là, tandis que, je veux dire, quand tu le vois comme une clé qui déchiffre les maladies de la société, tu ne penses pas au Joker de César Romero là, qui a peinturé par-dessus sa moustache. Mais, <t'sais, rire> mais c'est ça. Je pense que, honnêtement... C'est plus que c'est un film qui me déçoit énormément.
Mm-hmm. Ouais, ouais. J'aurais aimé embarquer dans Vibe avec les autres. J'aurais aimé que ce soit autre chose, que ça amène plus loin. Tu sais, j'aurais aimé. Tu sais, mon problème avec le film, c'est quand j'ai vu que dès le départ, il n'y avait pas l'air d'avoir du fun à commettre ses crimes puis à faire souffrir. Ça a été mon premier problème avec le... Mon premier gros problème avec le film, j'ai fait... Non, il traite pas. Mm-hmm. C'est pas un plaisir qu'il découvre de... Un gun, ouais, c'est ouais. Du monde, puis ça fait des trous dans la tête. Puis la personne, elle est morte. Intéressant. Ce que j'aime pas, c'est que c'est un personnage qui est toujours en réaction à quelque chose, qui est jamais en décision jusqu'à la toute fin, quand là, il commet un geste irréparable de son propre gré, mais avant ça, il y a pas de... C'est ça, c'est...
Ouais.
Hey, voilà un coup! Oh non, un coup! Ben là, faut que je fasse de quoi?
Ben, pis tu sais, pis même, je veux dire, si tu le compares à Travis Bickle. Tu sais, Travis Bickle, il est dans un genre de délire religieux, là, dans un sens. Là. Tu sais, lui, il veut protéger Iris. Tu sais.
Oui, oui.
Il pense qu'il fait le bien parce que tu sais, lui, il voit la pourriture autour de lui. Puis comment il agit à la fin de Taxi Driver, c'est pas pour son propre bénéfice. Tu sais. Il est un peu comme... Ben, tu sais, c'est Scorsese, fait que c'est un enfant catholique. Là, tu sais. Lui, il se voit comme... un martyr dans un sens. T'sais, il fait ça pour être le martyr. Mais le Joker, je sais pas pourquoi il fait ça, parce que le monde sont pas fins avec lui. Ouais. Ça a beaucoup plus à voir avec Falling Down, là, l'enragé.
Oui, oui, oui.
Il y a un autre film que tout le monde aime. Ça aurait pu être aussi mon choix. Là, un film que tout le monde aime, que je suis comme... Je comprends, c'est cathartique. Là. C'est un film dans lequel tu fais passer tes frustrations, mais là, j'ai comme compris tout de suite au début, puis ça ne semble pas cesser. Il semble avoir tout un autre film après ça.
En fait, Falling Down, c'est le meilleur film de GTA.
Ouais. C'est vrai.
C'est GTA de movie. C'est exact. Point A, t'as un bat de baseball. Point B, tu vas avoir un petit fusil. Point C, un AK-47, puis tu finis avec un bazooka. C'est la construction
de l'idée. Précisément.
Ouais. Mais effectivement, j'aurais aimé embarquer dans un film comme Joker. Puis, tu sais, c'est correct, les gens qui ont aimé ça. Tu sais, il y en a peut-être pour qui c'est leur première confrontation à un film qui veut aller dans ces zones-là. Tu sais, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu les Taxi Driver et les King of Comedy de ce monde avant d'aller voir ça. C'est sûr que...
Mais il y a plein de monde que oui aussi. T'as-tu déjà eu, je me souviens pas, j'ai pas de la liste de tes invités, t'as-tu déjà eu le scénariste Eric Kamala-Boulian?
Non, pas encore.
À ton show? Okay. Parce que lui, il adore Joker, puis il adore aussi Malcolm and Mary. T'sais, deux films me tapent ses nerfs, resti comme ça se peut pas. Puis, mais moi, je respecte énormément Eric. T'sais, je sais qu'il c'est pas un deux de pique, qu'il est pas comme... Fait que lui, il a tiré quelque chose de ça que... T'sais, ma blonde adore Joker aussi, puis elle n'est pas dans le champ d'adorer mais ça. Je pense que personne n'a tort d'aimer un film. Mais moi, personnellement, ce que j'en retire, c'est très peu. T'sais.
Oui, c'est fait ça. Ouais, je sais pas. J'ai le même sentiment.
Fait que, t'sais, puis après ça, ça peut arriver. Je pense que même si t'sais, il y a plein de monde qui ont vu plein de films et qui trouvent que Joker, c'est bon aussi, je sais pas. Je pense que ça vient vraiment. Tu sais, je parle souvent de ça parce que là, tu vois, j'ai plein de disques, j'écoute beaucoup de musique, tu sais. Puis, ce que mon père dit pour décrire de la musique qu'il aime pas, il va jamais dire que c'est pas bon ou qu'il aime pas ça. Il va dire « je l'entends pas ».
Ah, c'est bien dit.
Quand il parle de U2 spécifiquement, il dit « U2, tu sais, tout le monde aime ça, mais moi, je l'entends pas ».
Ouais.
Tu sais, je l'écoute, puis je fais « je sais pas », tu sais, comme je pourrais écouter rien du tout. Joker, je l'entends pas.
Ouais.
Tu sais, il est là, je le vois, je perçois ses qualités plastiques, puis je suis comme « ah, OK, mais je l'entends pas ». Tu sais, puis c'est un peu comme de la... Tu sais, c'est comme il y a plusieurs bands, là, mettons. Tu sais, comme moi, Radiohead, je l'entends pas. Ou Tool, je l'entends pas. Puis Joker, tu sais, c'est un peu comme ça, tu sais. Il y a plein de monde bien intelligent qui aime ça, Joker. Mais
ben oui, puis tout le monde le défend.
Il aime Radiohead, mais pas moi.
Oui, puis... Je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent Joker qui pourraient venir nous voir en disant vous avez tort pour telle raison de détruire tous nos arguments, puis ça serait autant valide.
Ouais. Ben, ça serait valide. Ouais, mais ça veut pas dire que je suis d'accord.
T'sais. Mais c'est ça. Ça veut pas dire que ça va me faire changer d'idée non plus.
C'est ça. T'sais, puis, fait que je veux pas, tu sais. Là, c'est sûr que c'est un peu étrange de venir défendre le film que j'haïs en disant écoute, vous avez le droit d'aimer ça. Mais parce que je pense que, tu sais, c'est ça aussi, là, la nuance importante, je pense, quand on parle. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent, vu que je suis critique de cinéma, les gens viennent me parler, puis là, ils font « hier, on a regardé... » Puis là, ils vont dire un film que j'aime. Tu sais, ils vont dire, mettons, on a regardé... Uncut Gems.
Ouais.
C'est mauvais, ça. C'est donc bien mauvais. Puis là, ils veulent que moi, je fasse ça. « Ouais, c'est mauvais aussi.
Ouais. »
Là, je me trouve dans une situation que je dois faire « ah, ben non, en fait, moi, je trouve ça fucking bon. » Puis là, ils disent « pourquoi? Explique-moi ça, tu sais. » Puis, je me souviens, celui-là, que ça arrive tout le temps, c'est Spring Breakers. Tu sais, Spring Breakers, j'aime beaucoup ça Spring Breakers. Vraiment bon, mais c'est deuxième niveau. Si tu prends Spring Breakers au premier niveau, c'est comme, ben, c'est des filles en bikini, puis là, ils ont des passe-montagnes sur la tête, puis je sais pas trop
puis
là.
James Franco, oui.
C'est ça. Mais tu sais, puis si c'est ça que tu as retiré de ça, puis ça t'intéresse pas d'aller au deuxième degré ou tu l'entends pas, je suis pas là pour te convaincre autrement. Tu sais, si c'est ça que tu. Fait que. Je pense que, tu sais, Joker, si Joker, c'est ton Spring Breakers, puis il y a un deuxième niveau que moi, j'ai pas compris, mais en tout cas, au premier niveau, Joker, je trouve ça assez de base.
Complètement. On va conclure avec ton troisième film, qui est ton plaisir coupable, qui est un film que j'apprécie beaucoup aussi, c'est Straight to Hell, film de 1987 de Alex Cox, qui met en vedette Cy Richardson, Joe Strummer, qui était le chanteur des Clash, Dick Rude, qui lui, était-tu dans Clash ou dans Sex Pistols, Dick Rude?
Non, Dick Rude, c'était un acteur, là. Il était pas dans un band.
Non, c'est vrai, il y a quand même un nom de chanteur punk.
Ouais, c'est vrai.
Les années 70, Dick Rude, ça s'invente pas.
Il était adjacent, il réalisait des vidéoclips.
Ah, c'est ça, OK. Ouais. Ça met aussi en vedette Courtney Love et une petite apparition d'Elvis Costello.
Oui.
C'est un film improbable. C'est un film que... Voyons donc que ça existe. Puis c'est triste de dire que des films de même se font à peu près plus ou plus du tout aujourd'hui. C'est un western punk C'est un film punk western de série B ultra violent. C'est quoi Straight to Hell?
Ben, Straight to Hell, c'est un film de Alex Cox. Alex Cox qui était connu à ce moment-là pour deux films, Repo Man et Sid and Nancy, qui sont deux films quand même, tu sais, peut-être les deux films punk qui ont le plus pogné dans le mainstream. Ouais. Là, puis, ben lui, il s'était lié d'amitié, évidemment, avec Joe Strummer, puis avec des musiciens punk et tout ça, les Pogues, par ailleurs.
Mm-hmm.
Et Joe Strummer était vraiment comme concerné par la cause, là, la guerre civile, tout ça, les Sandinistas, puis tout ça, au Nicaragua. Et il voulait faire une tournée, qu'il allait faire un concert, puis un documentaire avec la tournée, avec les bandes, tout ça. Puis ça a chié parce que il y avait trop de c'était trop dangereux au Nicaragua. Fait qu'à place, il a dit, ben là, vu que genre eux autres, ils se sont fait de la place dans leur horaire pour faire la tournée, puis le film, tout ça, puis j'ai de l'argent, on va aller faire un western spaghetti en Espagne.
Pourquoi pas?
Fait que là, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un film... par où commencer? Tu sais, l'histoire, grosso modo, c'est qu'il y a trois tueurs à gages, dans le fond, qui se sauvent de Los Angeles parce qu'ils ont loupé de tuer quelqu'un. Donc, Dick Rude, Cy Richardson et Joe Strummer. Ils ont aussi une femme enceinte avec eux, jouée par Courtney Love.
Et
ils vont se cacher dans un village qui au Mexique, qui est supposé être au, en fait, c'est en Espagne, mais c'est au Mexique. Et le village est absolument sous le contrôle de la famille McMahon, qui est jouée par le band de punk celtique, de Pogues, qui sont une estie gang de Soulon, tu sais, en général. Puis là, je pense que laissé seul dans le désert à train de faire un film, ça allait pas bien.
Ouais. C'est pas clair si le village western où est-ce qu'ils vont est en 87 ou en 1887.
Ouais, c'est ça. Ils sont habillés comme en mariachi. Là, ouais, ils sont accros au café. Ils font juste tout le temps boire du café. Puis, tu sais, c'est ça. Là, ils haïssent, là, genre... Il y a ce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés, je sais pas trop. Puis là, à un moment donné, Dennis Hopper puis Grace Jones arrivent avec mallette pleine de guns. Il y a Jim Jarmusch dedans aussi, évidemment.
Oui, oui, oui.
Puis là, c'est ça devient une tuerie sans fin. La dernière demi-heure du film est essentiellement un shootout compliqué de monde dans un village western, composé presque entièrement de musiciens. le majordome pouilleux, c'est Elvis Costello. Puis Elvis Costello, qui était à ce moment-là marié avec la bassiste des Pogues, Kate O'Riordan.
Okay. Ce qui explique sa présence dans le film.
Qui produisait les disques des Pogues aussi. Mais puis les Pogues, en tout cas... Fait que, t'sais, là, pour résumer pourquoi moi j'aime ce film-là, c'est qu'il y a tout ce que j'aime dedans. Premièrement, moi, je suis un grand, grand fan des Clash, des Pogues, d'Elvis Costello, de ce genre de musique-là, de Jim Jarmusch, de cette contre-culture fin des années 70, début 80. Ouais. Punk, mais pas juste punk, tu sais, comme adjacent punk, où ce qu'on commençait à mettre de la musique world dans, le Clash reggae, commençait. De mettre, c'est ça.
Du ska aussi. Là.
Exact.
Contrevent générique.
Tu sais, ça, j'aime vraiment ça. Puis, c'est, fait que, tu sais, comme, mettons, je te dirais que dans Straight to Hell, il y a 5 personnes que je considère comme des héros pour moi. Donc, Joe Strummer, Shane McGowan, Elvis Costello, Dennis Hopper et Jim Jarmusch. Et pour moi, ça représente... Tu sais, fait que plus jeune, t'entends parler, justement, pour faire un loop, là, quand j'habitais au Saguenay, j'entendais parler des films que des rockstars ont fait.
Ouais.
Comme, mettons, Human Highway de Neil Young ou 200 Motels de Frank Zappa.
Ouais.
Des films qui étaient introuvables à cette époque-là parce que c'était difficile d'avoir une sortie à cause des droits reliés à la musique et ainsi de suite. Puis, finalement, quand je les voyais, ben c'était ce que c'était, du gros crisse de niaisage, monde drogué qui exploite la contre-culture pour faire des niaiseries, tu sais, puis Ringo Starr à Bianon qui se fait taper Keith Moon qui se fait taper les fesses à Bianon, des affaires de même. Puis, Straight to Hell, pour moi, c'est la parfaite, la version parfaite de cette chose-là. C'est-à-dire un film de contre-culture très libre, très niaiseux, tu sais, assez décousu, où est-ce que tu vois que les gens ont du fun. C'est un peu une crosse, dans le sens que, tu sais, c'est un peu comme on va prendre cet argent-là pour se faire du fun.
Ouais.
Parce que on n'est pas sûr que quelqu'un va vouloir voir ce film, nécessairement. Ouais. Ouais, donc,
comme Adam Sandler avec ses 85 millions
exact.
Pour faire Grown Up 8.
Exact. Puis, tu sais, Straight to Hell aussi, il y a des esthétiques de spaghetti western que je trouve vraiment cool. Ouais. J'aime vraiment ça. Tu sais, encore là, comme j'aime ça, le désert, puis le suintage, puis les affaires qui puent, puis les vieux murs en briques tout décrissés. Puis, j'aime la musique, parce que sur la bande sonore, évidemment, il y a des tunes de The Pogues, il y a des tunes de Joe Strummer, il y a quelques autres affaires. Il y a un gars des Circle Jerks, là, Xander Schloss, qui est dedans aussi. C'est lui qui chante une petite chanson à propos des hot dogs.
ben oui.
Salsa y ketchup. Puis, tu sais, je pense que la première fois que je l'ai vu, je me souviens que j'ai vu ce film-là. Je suis venu pour genre la fin de semaine, où je ne suis pas trop passé une semaine à Montréal avec ma grand-mère. J'avais 15 ans, mettons.
Mm-hmm.
Puis là, j'ai dit à ma grand-mère, je veux aller à la boîte noire, mais il faut que tu viennes avec moi parce que genre, j'ai pas d'adresse à Montréal, je peux pas me faire un compte. Fait que là, c'est fait un compte, puis j'ai loué Straight to Hell. Puis j'ai écouté ça avec ma grand-mère sur mon divan. Elle était genre, je comprends rien, tabarnak. Fait qu'elle est partie. Puis j'étais comme, wow, tu sais, ça se peut, ça.
Ouais, ouais.
Tu peux faire ça.
J'ai le même feeling.
Tu sais, puis je me souviens de l'avoir montré à un de mes amis, mon ami Dan, avec qui je faisais un podcast il y a vraiment longtemps. Il y a comme 10 ans. Puis lui, il a dit, tu sais, sur papier, si tu me décris c'est quoi un film de Quentin Tarantino, c'est ça que j'imagine. C'est ça. Pas les films de Quentin Tarantino. Tu sais, il y a une liberté de venir chercher, de venir puiser partout, puis de tout crisser, puis de faire des jokes niaiseuses avec des scènes dramatiques, puis tout ça, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que je l'ai mis dans les plaisirs coupables. Je pense que pour plein de monde qui nous écoute en ce moment, pour qui, tu sais, Joe Strummer, ça veut rien dire, puis Dennis Hopper, ça veut rien dire, probablement que c'est de l'impénétrable marde. Tu regardes ça et tu es comme, hey, je comprends rien. Ouais. C'est comme le film de Tom DeLonge à propos des aliens. Là, comme du gars de Blink-182, il a fait un documentaire sur comment les aliens existent. Puis c'est comme son band, Angels and Airwaves, qui fait comme la musique, ou je sais pas trop. Puis ça, il y a du monde que pour eux autres, ça fait longtemps qu'ils écoutent cette musique-là et qu'ils sont dans ces théories weird d'aliens. Ils regardent ça et ils font, ouais, c'est hot, c'est une expression pure de Tom.
Oh, ouais.
Tandis que moi, je regarde ça et je suis comme... Ça, c'est ça que les gens que moi, je respecte, qui leur musique, leur film, pardon, me parlent. C'est ça qu'ils font si tu leur laisses faire quoi que ce soit. Puis, j'étais vraiment down. T'sais. Mais en même temps, il y a plein d'affaires. Il y a un film que j'ai vu à la Cinémathèque juste avant le début de la pandémie qui s'appelle Candy Mountain. C'est un film québécois. Non, canadien, excuse. De 1987. Donc, la même année que ça. Réalisé par Robert Frank, qui était un grand documentariste. Là. Je pense que son film le plus connu, c'est Cocksucker Blues, qui est un film sur les Rolling Stones, qui a été banni pendant genre 30 ans parce que les Rolling Stones, je pense que dedans, Keith Richards fait de l'héroïne, genre on camera. Puis tu sais, Candy Mountain, ça faisait longtemps que je voulais voir ça. Là. Puis, dedans, il y a Tom Waits, il y a Joe Strummer, il y a Dr. John. Il y a Arto Lindsay, Mary Margaret O'Hara, David Johansson, des New York Dolls, tu sais. Encore une affaire de même un peu de contre-culture, de tout ça. Puis je suis allé le voir à Saint-Matin, puis j'étais comme, ça, c'est pas ça que je voulais. Tu sais, c'est pas ça que j'imaginais, là, genre. Fait que, tu sais, l'idée aussi que c'est extrêmement aléatoire quand tu fais un film comme ça, tu sais. C'est quand tu laisses libre cours à l'expression, puis tout le monde improvise un peu, tu sais. Human Highway de Neil Young, c'est un peu la même affaire aussi. Il y a Devo dedans, puis Dennis Hopper est dedans aussi. Straight to Hell, c'est juste que, tu sais, ça tombe parfaitement dans mes tales sur toute la ligne. Je trouve ça drôle, je trouve ça le fun. Tu sais, il y a une grande liberté dedans qui vient me chercher, que ça n'a pas l'air de juste être du zigonnage, mais en même temps, c'est exactement ce que c'est.
Ouais. Il y a un plan dans Straight to Hell que j'ai fait à l'époque où j'avais des rêves de faire des films. Là, puis c'était, Si ce rêve-là c'était concrétisé, je pense que j'aurais fait des films. Là. Si Straight to Hell, c'était ça qui,
ouais,
c'est
ouais.
ça qui m'attire, mais tu sais, ça se peut plus aujourd'hui parce que c'est pas assez léché, c'est pas assez beau, c'est pas. Puis, mais il y a un plan que j'adore, puis c'est toute la gang à Joe Strummer et compagnie qui refont un peu la dernière scène de Jésus avec ses apôtres. Ils sont tout autour d'une table, c'est super beau, puis t'as un traveling arrière.
Puis ils chantent une toune, c'est ça?
Ils chantent une toune, puis tu commences à voir les rails, le dolly de la caméra. Puis j'ai fait, ah, on peut faire ça, on peut voir l'équipement.
Ouais.
J'étais jeune quand je l'ai vu, tu sais, je devais avoir ben, ça, à peu près 16-17 ans, puis j'ai fait, ah, on a le droit de montrer la technique. J'ai fait, ça c'est être libre.
Bon, on a le droit de faire n'importe quoi. Tu sais, il y a une scène où Shane McGowan, qui joue un des frères, qui est le chanteur des Pogues, si vous allez googler à la maison Shane McGowan, si vous ne savez pas de quoi il a l'air, il a essentiellement pas de dents. C'est un grand roux pas de dents qui a des graves problèmes d'intoxication depuis 1985. Puis il rit comme ça. Il n'y a pas de dents. Puis il y a une scène où tout ce que tu entends, c'est ça. C'est comme une scène d'invasion. Là. Quelqu'un rentre, essaie d'attaquer quelqu'un. Puis tu entends juste. Puis tu sais, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Moi, c'est vraiment ça. C'est l'idée que. Tout se peut dans ce film-là. T'sais. Puis en même temps, ça se tient. Parce que, tu sais, comme je te dis, 200 Motels ou la majorité des films plus hippies dans cette veine-là sont très, très décousus. Sont ils sont beaucoup dans le. On fait ça parce qu'on n'est pas supposé faire ça plutôt qu'on fait ça parce qu'on veut faire ça.
Ouais.
C'est que, oh, l'establishment va trouver ça bizarre que, genre, j'arrête pas de. Whatever, je suis peinturé en brun, puis je me tape les fesses avec une raquette de ping-pong, tu sais. Mais je pense, Straight to Hell, si il y a des gens qui vont sûrement le regarder à cause qu'on en parle maintenant.
J'espère.
Ça se peut qu'ils aiment pas
écrivez-moi,
ça.
Écrivez à Alex si vous le regardez. Moi, j'adore ce film-là. Là. Je peux même pas te dire à quel point je l'aime, puis que j'aime Alex Cox en tant que réalisateur. Je le trouve le fun, puis c'en est un qui se permet de faire tout ce qu'il veut. Il est ce que Terry Gilliam aimerait être.
Ben c'est ça. Là, Alex Cox, l'autre affaire, c'est qu'Alex Cox, une autre chose que j'aime beaucoup des cinéastes, j'en parle souvent au Voyeur de vue, c'est quand les cinéastes disent au studio d'aller chier. Et Alex Cox a essentiellement fait ça. Fait que sa carrière n'a jamais levé autant.
Il fait plus de films depuis 20 ans, ce gars-là. Là.
Ben, il a fait il en a fait d'autres, apparemment. Non? Il a fait
mais c'est des affaires autoproduites.
Ouais, c'est ça. Il est comme prof d'université, là, puis il fait des trucs de très low budget. Mais après ça, il a fait Walker, ou en même temps, Walker qui sont avec Ed Harris.
Oui, qui est très bon.
Qui est vraiment un film radical pour un film de studio.
Un film de studio fait dans les grosses années de Ronald Reagan qui envoie chier Ronald Reagan.
Ouais, exact.
C'est génial. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui se passe quoi dans les années 1700, 1800
1853
au Nicaragua. Puis c'est dans la vraie vie, pendant l'invasion des contras, là, une guerre que Reagan a alimentée. Puis ça se passe en 1853, puis des fois, t'as juste des voitures qui passent, t'as des gens qui boivent du coke, puis ça finit avec l'armée américaine qui débarque en hélicoptère pour venir chercher Walker.
Ouais,
c'est ça. Oui, fais-le!
Ouais, c'est ça. Puis sa femme, c'est Marlee Matlin qui avait gagné un Oscar l'année d'avant. Pour Children of a Lesser God, puis elle est sourde. Elle est sourde. Fait que je pense qu'à un moment donné, elle l'envoie chier comme en langage des signes. C'est pas historique, là, c'est parce que c'est elle l'actrice. Là, c'est vraiment. Il y a Joe Strummer est dedans aussi. C'est lui qui fait la musique, d'ailleurs. Puis, la musique est vraiment bonne. Je l'ai. Vous allez comprendre que si je dis je l'ai en vinyle, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire que ça existe. Là. Mais je l'ai en vinyle et c'est très bon. Mais c'est ça. Puis après Walker, ça a été une longue descente vers l'enfer. Là. Il était supposé réaliser Fear and Loathing in Las Vegas.
Ouais,
il a écrit finalement, mais c'est il ne l'a pas réalisé.
Ça aurait été génial avec lui qui l'aurait fait. Ça aurait été 50 fois meilleur que ce que Terry Gilliam a fait. Puis... mais pour vrai, c'est un... Réalisateur vraiment le fun à découvrir. Moi, je suis content qu'on en parle parce que c'est quelqu'un que j'ai souvent défendu puis eu à défendre.
Mm-hmm.
Mais il fait des films d'une grande liberté, Alex Cox. Puis il doit être redécouvert ou sinon reconduit. Mais ouais, informez-vous sur Alex Cox. Allez voir ses films.
Ben, surtout les quatre premiers, parce qu'après ça, tu sais, ça devient un très low budget, c'est dur à trouver, mais tu sais, les quatre premiers, Repo Man, Sid & Nancy. Sid & Nancy, qui moi, je défends, même si, tu sais, historiquement, c'est n'importe quoi, il invente plein d'affaires, puis c'est mais c'est ça, Walker et Straight to Hell.
Ouais. Ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission, Alex.
Oui, mais merci de m'avoir eu. C'était très, très plaisant de parler de ces films.
Ben oui, mais oui.
Oui, Uncut Gems, j'en ai parlé beaucoup, là. Comme l'autorité, le monde m'appelle maintenant si quelqu'un va te parler d'Uncut Gems.
Tant mieux!
C'est ça. Tant Allez écouter mon épisode des Mystérieux Étonnants avec Yannick Belzile où on parle d'Uncut Gems.
Yes! si les gens veulent te suivre, si on veut te lire, t'écouter, on va où?
Oui, pour me lire, c'est cultmontreal.com ou cultmontreal, cultmontreal.com. Sur Twitter, c'est Alex Rose avec deux petites barres à la fin. Sur Instagram et Letterboxd, je suis Why Does It Exist, qui est le nom de mon défunt podcast de 10 ans, mais trop vache pour changer les noms.
Mm-hmm.
Vous pouvez aller écouter ça d'ailleurs, whydoesitexist.com sont encore là si vous voulez m'entendre parler dans un seul micro BS USB où est-ce qu'on est assez super loin du micro. Puis c'est ça. C'est donc, mais la majorité, là, Cult, c'est la place là, où est-ce qu'il y a du nouveau contenu à chaque semaine.
Cool!
Ben, les voyeurs de vue.com, évidemment, j'allais oublier.
Les voyeurs de vue.com. Et d'ici à ce que l'épisode sorte, vous allez avoir vu la Snyder Cut.
Et Chris m'a pas hâte, je vais te dire. Là. À tous les semaines, là, je méprise le fait qu'on a décidé de faire ça. Fait que, je vais expliquer pour ceux qui n'ont jamais écouté les voyeurs de vue. Je le fais avec Yannick Belzile de Trois-Bières. Puis à la base, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au cinéma. Yannick m'accompagnait quand j'allais à des visionnements de presse le mercredi. Ensuite, on allait au bar et on discutait du film qu'on avait regardé. Là, depuis le mois de mars, il n'y a plus de cinéma ni de bar. Donc, on a conçu un concept qui est un peu similaire à Six Degrees of Kevin Bacon. C'est-à-dire qu'on part d'un film, on est parti du Zodiac, puis après ça, pour le prochain film, pour le sélectionner, il faut que ça soit relié soit par le réalisateur, le ou la scénariste, ou un des comédiens ou des comédiennes du film. Fait que là, le 6 mars, ça va être passé quand l'épisode va sortir, ou la semaine que le Snyder Cut sort, de la version super longue de Justice League de Zack Snyder. Fait que là, il faut se rendre là. Fait qu'il faut regarder des films qui vont faire en sorte qu'on va se connecter. Puis c'est compliqué. Fait que là, on avait décidé qu'on voulait faire des films japonais après ça.
Mm.
Mettons, spoiler alert, quand ça va sortir, on va probablement être rendu là. Mais comment tu passes de Snyder Cut au Japon? Fait qu'il faut que tu trouves une façon. Fait que tu sais, des fois, on tombe dans des films. Des entre-deux, tu sais, des films qu'on... Là, on regarde souvent des films maintenant qui sont bons, qu'on aime.
Mm-hmm.
Tu sais, des fois, c'est juste, c'est le film. Fait que, tu sais, sans faire de spoiler, justement, je parlais à Yannick aujourd'hui de ça, puis on essayait de faire un lien entre deux films, puis le film qui nous faisait le lien, c'était Hardball avec Keanu Reeves, qui coach une équipe de petits flots jouent au baseball. Fait que, tu sais, on fera pas, on va trouver une autre façon, parce qu'il n'est pas question que, genre, on fasse un épisode sur Hardball. Mais, tu sais... Fait que c'est ça le fun de ça, c'est qu'on ne sait jamais vraiment trop où est-ce que ça va nous mener. Puis toi, t'as été invité pour Social Network.
Oui, très le fun. Très bon film qui passe très bien l'époque du temps. L'épreuve du temps, elle est... cet épisode-là était le fun à faire.
Ouais, ben c'est ça, bien, c'est content de t'avoir. Puis fait que c'est ça. Puis on va avoir des invités de temps en temps aussi. C'est sûr que de par la nature du show, c'est pas toujours évident d'avoir un invité à cause qu'on sait pas tout le temps qu'est-ce qu'on va faire. Fait que, mais c'est ça, voyeurdevue.com, puis c'est les voyeurs de vue sur toutes les plateformes de podcast.
Cool! Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr, et avec Alex Rose, on a jasé de films.